bonjour les frères et sœurs, c'est Sydney,
Arthur Legg et Philippe Thorne.
Hey les gars, vous êtes où? On fait quoi? Écoute ça. Le radioclub.com podcast à fond la caisse, man.
Le Radio Club.
Madame, mademoiselle, monsieur,
bonjour. Bonjour,
bienvenue dans le Radio Club, on est effectivement en direct de la chambre de bonne et notre invité aujourd'hui, ah putain, ça fait plaisir, monsieur Sydney.
H.I.P. H.O.P. Yes.
Alors moi, je me suis dit, je vais pas le balancer comme ça dès le départ, je vais pas dire H.I.P. H.O.P. parce que il risque d'en avoir super marre de ce...
Ça y est, c'est rentré, c'est sorti.
C'est dans les mœurs, quoi.
C'est dans le patrimoine
J'en ai pas plus que marre, c'est rentré, voilà, dans le patrimoine.
Parce que les gens en fait te connaissent parce que t'as fait une émission sur TF1 qui s'appelait.
C'est parce que les gens me voyant disent mais je vous connais vous, c'est vous qui avez fait ce sujet. Mais des fois les gens se rappellent pas mon nom, mais ils se rappellent de H.I.P. H.O.P. Donc je dis ah c'est Monsieur H.I.P. H.O.P.
Oui. Voilà.
Moi je regardais TF1 à l'époque. Ton émission était vers 14h30, je sais plus.
14h20,
d'accord. Et j'attendais moi Starkey Hutch après.
Yes.
Avec les potes. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance.
Philippe Thorne, il adorait Starkey Hutch.
Voilà. Ouais, j'adore, j'assume.
Moi aussi.
Moi aussi, j'avoue.
Voilà, quoi. Il y avait Rouliot à la maison et Starkey Hutch.
De toute façon, t'avais pas le choix. Il y avait trois chaînes de télé.
Voilà.
Et TF1, c'était la mieux.
Et en radio, c'était encore pire que tout, hein, parce qu'il y avait rien du tout. Les débuts de la FM en 80. On va y revenir parce que t'as été un pionnier de la FM en France, en fait.
Merci, oui.
Le pionnier de beaucoup de choses.
1982, création de Radio Libre en 81. Exactement. Et Radio France crée sa première chaîne de radio. Radio Libre, Radio 7, à l'intérieur de Radio France.
Tu l'évoquais tout à l'heure, mais c'est Marie-France Brière qui était une réalisatrice télé bien plus tard.
Ouais. Patronne de Radio 7.
Oui, qui a été directrice des variétés de ça sur Europe 1 avant.
Ouais,
qui a découvert
aussi
plein de gens. C'est vraiment quelqu'un qui avait un flair. Qui a flairé juste en disant ah, il faut aller chercher.
Toi, viens ici, toi.
Donc, vous l'avez compris, émission exceptionnelle aujourd'hui. Ouais. Sydney est avec nous.
Le vrai, l'original.
Explique comment ça s'est passé. En fait, on ne se connaissait pas. Et c'est ton pianiste, DJ, Fred, d'ailleurs on le salue.
Fred Montabor, yes, c'est comme mon petit frère.
Ouais, c'est ça.
Mon petit frère, voilà.
Il nous a dit, ah bah je bosse avec Sydney. Non, c'est pas vrai, c'est du fake.
Voilà, on l'a pas cru.
Il dit, écoute, voilà, on fait une émission, le Radio Club, machin, est-ce qu'il peut venir? Bah je l'appelle, on va voir quoi. Et t'as accepté, tu nous connaissais pas. Et je crois qu'on a vachement de choses en commun. On a les yeux qui brillent pour la musique, pour les médias. La radio, en tout cas, nous, c'est notre truc. Toi aussi, puisque tu as été un des pionniers en France avec Radio 7. On va en reparler. Et puis, on va dérouler comme ça un petit peu une tranche de vie, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait.
Mais pour parler de Fred Montabor, on a toujours été un tandem.
Ouais.
Voilà, depuis très, très, très longtemps, avant que Fred achète son premier piano. Mm-hmm. Savoir qu'il a joué avec Rita Mitsuko, téléphone. Bon, il a un parcours incroyable aussi. Il a démarré avec moi. On a démarré dans le jazz et tout ça. On a fait plein de groupes ensemble. Chaque fois, il m'appelait, tiens, viens jouer du sac, viens jouer de la base, et moi je l'appelais. On a toujours été un tandem du tonnerre. On a écrit le générique H.I.P. H.O.P. ensemble.
Ouais.
Voilà. Okay. Donc dès que je faisais la musique, c'était avec Fred. C'est resté comme ça pendant des années. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie. Voilà, je tiens à te faire une spéciale dédicace.
Monsieur Fred, nous aussi, parce que c'est grâce à lui qu'en fait que tu es là. Ouais. Et on l'embrasse bien fort.
c'est bien comme faute. Hein.
Je pense qu'il nous écoute. J'ai envoyé un message, il m'a dit il peut pas venir, il vient de rentrer d'un truc. Mais bon, je pense qu'il nous écoute. Il a intérêt d'ailleurs. Il a gueulé.
Sinon, ça va gueuler quoi. Alors, on est là jusqu'à, on sait pas quelle heure, parce qu'on sait quand démarre le Radio Club, mais on sait pas quand il finit. C'est un peu le concept.
C'est ma femme qui va gueuler.
Ouais, en plus, elle t'a fait un petit plat pour tout ça pour ce midi. Puis en fait, toi, t'as pas bouffé à la maison à midi.
Non, mais je l'ai rodé. J'ai jamais dit, chérie, à quelle heure tu rentres? Chérie, ne pose jamais cette question.
Il sait quand il part, il sait pas quand il revient.
N'est-ce pas?
On va démarrer avec ton premier morceau.
Ouais.
T'as choisi, c'est le premier morceau, c'est le truc, voilà. Ouais. Alors, comme t'as été animateur radio, tu sais quoi, nous aujourd'hui, on va rien branler.
Nous,
c'est
on glande aujourd'hui, on glande.
C'est ça.
Okay.
Tout est ouvert, tout est open, le mic, la platine. Yeah. On démarre tout de suite avec un vinyle. C'est le premier titre de l'émission. Tu peux l'envoyer quand
j'ai voulu l'envoyer, voilà. Je suis venu avec du vinyle. Merci d'abord déjà de me recevoir. Et je voulais commencer. C'est soit James Brown, soit Hendrix, soit quelqu'un qui est à la base de tout. Je suis bassiste, musicien, donc je suis parti aussi grâce à lui. Et je voulais passer un bon vieux vinyle de Jimi Hendrix. À l'époque, il y avait le Jimi Hendrix Experience, mais après, il a remonté un groupe qui s'appelait les Band of Gypsies. Avec le batteur Buddy Miles qui chante et tout, qui était le batteur le plus lourd, il faisait plus de 120 kilos sur sa batterie. Et pour moi, c'est aussi ma base, quoi. Donc ça commence par cette chanson qui s'appelle Them Change. C'est Jimi Hendrix, mais c'est monsieur Buddy Miles qui chante. Et c'est en concert live.
Le Radio Club avec Sydney, Philippe Thorne et Arthur Lenn. Bougez rien. Le Radio Club avec Jimi Hendrix. C'est le premier morceau de Sydney, invité spécial du Radio Club aujourd'hui, en vinyle en plus.
En vinyle, concert live chez Barclay en plus. C'est Eddie Barclay qui avait signé Hendrix à ses débuts. Et ce live est magnifique aussi, parce que vraiment, moi j'aime le son live. Les musiciens s'expriment comme ils le ressentent, et là c'est bien.
Et c'est avec ça que tu as découvert la musique, on peut le dire ou...
Non, pas du tout.
Ah bon,
mon père était saxophoniste de jazz, et ma mère écoutait la Fitzgerald. Ouais, je suis né avec Coltrane, et puis avant My Davis.
Ah ouais, mais non, là, c'est pas du jeu.
J'allais pas vous emmener des disques de jazz, viens. Vous allez vous ennuyer.
Ah, viens. Arthur, on s'en va, viens, on se casse.
Moi, j'ai commencé, bon, bien sûr, le jazz, la musique classique, je suis conservateur de musique, mais le jazz, le rhythm and blues, la soul, j'ai emmené quelques petits trucs. Hmm. Et quand on démarre de là, on découvre, j'ai découvert Hendrix, l'avantage d'avoir d'être un vieux bonhomme et d'avoir vécu toute cette arrivée du rock and roll de Chuck Berry à XY, donc voilà, donc j'ai vécu ce répertoire,
cette musique américaine qui a débarqué.
Donc quand Hendrix est arrivé, j'étais gamin, j'avais 10 ans, mais voilà,
t'as été le voir à l'Olympia quand il est passé, tout ça?
Non, j'étais trop petit, mon grand frère m'a pas emmené. Voilà, et c'est Johnny qui est passé en première partie, Johnny à l'Olympia. Donc j'étais un peu trop petit.
Et tu sais qui c'est qui a présenté The Jimi Hendrix Experience à l'Olympia?
Non.
C'est un garçon qui est venu dans le Radio Club, il s'appelle Sam Chueca.
Ouais. Il a été. Les enfants du rock. Ah, oui. Chico et Groucho,
ouais.
Tu te rappelles?
Ouais, tu es Groucho. Voilà.
Et ben c'est un pote à nous, il est venu aussi dans le Radio Club et il nous a dit j'ai eu ce bonheur de voir Jimi Hendrix et de le présenter.
Ah, t'as vu le concert? Non, je l'ai présenté. Ah d'accord.
Et alors Jimi Hendrix lui dit en coulisses, tu me présentes pas en tant que Jimi Hendrix, tu me présentes en tant que The Jimi Hendrix Experience.
Ouais, il était avec ses deux acolytes et Jimi Hendrix n'avait pas le droit de dormir, il dormait chez Johnny. Tu vois.
D'accord. Il dormait chez Johnny.
Ouais, quand il venait en France, il dormait chez Johnny. Tu vois.
D'accord.
Tu vois, il y a des choses. Hein. Donc spécial dédicace à tous les fans de Johnny quand même. Voilà quoi. À que le Radio Club.
Tous les fans de Jimi Hendrix.
Et Jimi Hendrix. Ouais. Wow. Si tu aimes Johnny Hallyday, tu connais Jimi Hendrix. Sinon, rattrape-toi sur ta culture.
Alors je suis pas sûr que tous les fans de Johnny Hallyday connaissent Jimi Hendrix.
Ouais, c'est pour ça que le Radio Club existe.
Bah, exactement.
Pour faire savoir.
Bah, oui. Putain, il y a pas de mission, mais enfin on est là pour ça. Quoi.
Ah, bon, c'est le service public, hein, mesdames, messieurs.
La mission, c'est qu'ils apprennent.
Donc il y a eu Jimi Hendrix et puis il y a eu d'autres groupes comme ça qui t'ont...
Ah bah, des groupes qui m'ont perturbé parce que la musique, vraiment dans le rock et dans le soul et le funk, il y a des gens comme Sly and the Family Stone.
Ouais, c'est le prochain morceau qu'on va écouter.
Parce que c'est le mec qui a mélangé, qui fait le crossover, même titre que Stevie Wonder. Des gens qui faisaient aimer la musique non seulement au public noir, mais au public blanc, au public jaune. Voilà.
Ouais, il n'y a pas de couleur, quoi.
Il n'y a pas de couleur avec cette musique. Et c'est pour ça que ça me touchait énormément. Ouais, et que j'ai découvert Sly Stone qui est aussi bien rock ou funk.
Le tout en un.
Voilà, donc comme je suis invité, je commence déjà par la base, voilà, la base musicale du truc. Et,
c'est toi qui organise l'émission comme tu veux, nous on est là.
Eh ben tant pis pour vous.
Eh ben tant pis.
Slide the family song. Sing a simple song, man. Signal the control.
Maybe he say yeah.
S'énerve un peu, hein. C'est la bonne note.
C'est resté un slogan. Ça.
Bah non, mais le mec chante tout simplement chanter une chanson simple.
Voilà.
Est-ce que ça existe une chanson simple? C'est une chanson qu'on
retient. Surtout celle-là est très compliquée dans la rythmique et tout. On a la batterie qui est encore mixée à droite. Vraiment, elle est très compliquée cette chanson. Hein. C'est pas une petite basse. Déjà, nous, on était bassistes à l'époque. Il fallait ta batterie. Poum. Et ça a l'air simple, mais c'est pas simple.
Non.
Bon, bah voilà.
Ça, le
Radio Club. Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Si vous venez de nous rejoindre, on est avec Sidney. HIP. Voilà, c'est lui. Il est là, en chair et en os, en direct de la chambre de Bonne.
Ça y est, ils ont compris. Hein,
et on a commencé cette émission avec James Brown, avec Jimi Hendrix, avec Sly and the Family Stone. Yeah. Bon bah voilà, l'émission est installée, ça va.
Attends.
C'est-à-dire qu'on a pris la vitesse de croisière dès le début, comme ça on laisse pas respirer les gens et
ça, voilà. Ils savent quel niveau de culture ils vont prendre aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ça va groover comme une patate chaude, comme dirait l'autre.
T'as vu la posture?
Alors ça, c'est le morceau qui vient après. Mais alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que t'as grandi, où est-ce que tout ça est né?
Alors, tout ça est né dans la banlieue parisienne, Argenteuil.
95.
On habitait là-bas, mon père habitait le centre-ville, tout ça, j'ai une petite maison de ville et on habitait là-bas avec mes frères et sœurs, quand même 7.
Ah oui.
6, déjà 5 qui sont arrivés, puis les autres sont arrivés des Antilles un peu après, donc voilà. Et une famille de musiciens, bah, ça fait des adeptes, un peu des gens qui aiment déjà la musique.
Donc toi, tu viens des Antilles?
Moi, je viens des Antilles, né Argenteuil.
Voilà.
Je suis né à Argenteuil, ma mère est arrivée. Mon père est arrivé dans les années 50 avec le jazz, parce que Mike Davis arrivait, il savait qu'il y a du boulot à Pigalle. C'était une clique d'Antillais musiciens qui vivaient à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
Il y a des putains de musiciens aux Antilles.
Voilà, mais il jouait pas de begin, il jouait à la begin comme ça, mais c'était surtout un fou de jazz avec ses grands frères, mes oncles. Et ils ont dit, comme le jazz est à Paris, il faut qu'on monte à Paris. Donc dans les années 52, pendant le Bimanum, ils ont décidé de prendre le bateau, ils sont arrivés jusqu'au Havre. Mon père est arrivé au Havre avec des musiciens.
T'as un pas de chance, il aurait pu tomber à La Rochelle, il aurait pu tomber à Biarritz, je sais pas, le mec, pas de chance, il tombe au Havre.
Ah bah enfin, parce que les bateaux arrivaient au Havre.
Spécial dédicace.
Le France, il arrivait au Havre.
Ouais, ouais.
Non mais je déconne, parce que j'ai une petite collègue, une amie
qui est La Rochelle,
qui vient du Havre, et je la charrie tout le temps. Non mais pas de chance, le mec, il tombe au Havre, quoi, tu vois. Je veux dire, bon, donc, ton papa arrive au Havre, il vient de Guadeloupe, c'est ça?
Ouais, en 1952, il arrive de la Guadeloupe, avec ses oncles et tout ça, enfin mes oncles. oncles, du moins ses frères, et tous des jazzmen. J'ai une famille de souffleurs. Donc mon père joue du saxophone, mes frères jouaient du sax aussi. Il y en a qui jouent du trombone. Voilà, j'ai un oncle qui était batteur de jazz. Donc j'ai grandi dans une grosse caisse, comme je dis, ou dans un étui à saxophone.
Ouais, donc tu pouvais pas faire autre chose, quoi.
Je pouvais pas faire autre chose que devenir saxophoniste, malgré la vie contraire de mon père, qui disait non, tu feras pas de musique.
Tu seras médecin.
C'est un métier de galérien.
Tu seras avocat.
Voilà. Tu travailles bien à l'école, tu feras autre chose.
Hein, donc tu bossais bien à l'école.
J'étais obligé si je voulais faire de la musique, parce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai commencé ma petite carrière en tant que chanteur de rhythm and blues.
Ouais,
et pour y aller, il fallait l'autorisation de papa. Donc
et tu chantais quoi, vas-y? Tu
chantais sitting on the dock of the bay, watching the tide all the way. Oh, babe. Du Otis Redding, du James Brown, la soul, Wilson Pickett. C'est... One, two, three. One, two. Tu vois, voilà. Et j'ai toujours chanté. Voilà.
Et t'étais gamin, tu chantais ça, les gens ils hallucinaient.
Ah bah les gens m'appelaient le petit Michael Jackson français.
Ah ouais.
Parce que j'avais 2 ans de différence avec Michael, 2-3 ans. Et puis voilà, je dansais avec mon grand frère qui m'emmenait. Parce que si mon grand frère il m'emmenait pas, bah j'allais nulle part.
Bah pas de sortie.
Et on avait un groupe de rhythm and blues qui s'appelle, d'ailleurs j'en fais une dédicace, on sait jamais s'il y en a un qui écoute, qui s'appelle les Chimes of Fool, qui était de la banlieue de Cormeilles, de Herblay, tout ça, de la région d'Argenteuil. Et c'était le groupe local, on était le groupe local avec saxophone, trompette, tout ça, ça jouait du rhythm and blues.
Tu parlais de Jackson, tu l'as croisé,
Oui, j'ai croisé Michael Jackson, plus que croisé, j'étais invité sur la
tournée.
J'ai
dormi avec lui.
Pendant... Non, parce que j'étais trop vieux.
Et on se lâche, messieurs, on se lâche.
Quand il est venu à Bruxelles, donc une amie américaine qui connaissait le patron de Pepsi Cola qui m'a dit viens sur la tournée.
Ah ouais.
Je suis venu sur la tournée pendant 2 jours et j'ai pris vraiment l'ampleur de ce que c'est qu'une tournée de Michael Jackson. C'est une ville entière qui se déplace.
Donc, c'est ça.
Michael était là, je suis là, mais entre lui et moi, il y a des gros gardes de corps. Coucou, tu peux pas l'approcher, tu peux pas.
Are you Sydney?
Tu peux pas, même pas, tu vois. Et mais très voilà, Michael Jackson is Michael Jackson.
Ah ouais, c'est ça.
Le seul et unique.
Bah c'était toute l'histoire, c'est toute l'histoire de la Motown autour de ce qu'on pouvait créer, que les blacks voulaient monter pour vraiment se dire bon gars, si tu es noir, soit t'es bon dans le sport, soit t'es bon dans la musique, y a pas le choix. Voilà.
Avec un père dur quand même.
Ah mais il faut
le
être
papa, il était...
à cette époque voilà, c'est soit ça où tu vas aller travailler dans les usines Ford à Memphis et soit tu bosses quoi, fallait que tu bossais pour réussir. Si les noirs sont arrivés aux États-Unis à ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est parce
qu'ils ont bossé.
Ils prenaient le truc hyper au sérieux quoi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu comme ça.
Ouais, c'est clair.
Ouais, faut
on bosser. Leur donnait pas le choix, on leur donnait pas le choix de briller. Donc il fallait qu'ils le prennent eux-mêmes.
Voilà.
À la régulière mais voilà. Fallait qu'ils soient au top quoi.
Tu vois Will Smith, son gosse, il est déjà dans le cinéma, on n'entraîne pas se dire oh là, laissez grandir l'enfant. Non, il faut vas-y, tu veux être dedans. C'est un peu l'American way of life, tu vois. Tu veux gagner des millions mais faut aller, vas-y, t'es bon, vas-y, tu peux être bon là-dedans. Mets-toi au boulot. C'est un peu dur, mais.
Et Will Smith, c'est pas le pire en plus, parce
non,
que le mec
Will
est bourré
Smith,
de talent.
Cool.
Et puis c'est un showman. Moi, j'ai vu au Rex présenter Men in Black. Il a présenté le film. Et ben, je peux te dire que t'avais qu'une seule chose à la fin. T'avais envie d'une seule chose, c'était de voir ce putain de film. Ouais. Parce que le mec, il y a mis son énergie, son talent, son envie. C'est ça qu'il avait de plus fort. Le mec est fabuleux.
Il sait faire partager tout. C'est un mec, un artiste immense parce qu'il sait aussi bien rapper que sait tout faire.
Bah, voilà, le prince de Bel Air. Merci bien, quoi.
Great. Voilà.
Et ben, voilà.
Pas mal, Michael Jackson, Will Smith et moi, Annie Cordy.
Ah, j'ai connu Annie Cordy. Très sympa. Ça aussi, c'est une dynamite, cette femme. Annie Cordy, une dynamite.
Alors Annie Cordy, c'est une ancienne chanteuse. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaye de...
Jouer de l'accordéon.
Vous avez tous des références. Moi, j'ai rencontré un tel. Moi, j'ai vu machin.
Elle chantait « Je vous donnerai bien...
» qu'est-ce que je dis, moi, alors? J'ai vu qui, moi?
Bah, toi, t'as vu tellement de chants.
Aujourd'hui, tu me vois.
Non, d'abord, à l'époque, j'avais fait une spéciale dédicace pour toi avec... comment il s'appelle? Notre ami Gilles Cotteron.
Ah, Gilles Cotteron, que j'ai interviewé à Radio 7 à l'époque, en plus.
Grand monsieur.
Ouais, grand monsieur.
Je l'ai vu à New York et voilà, c'était un beau cadeau de la vie aussi.
J'ai eu ce plaisir de l'interviewer.
Voilà. Moi aussi, j'ai vu mon artiste. Voilà, je vous... pas. Hein, les mecs.
Donc Argenteuil, papa ouais. musicien, les frères qui font de la musique. Donc tu étais obligé de bosser comme un dingue pour pouvoir t'exprimer en tant qu'artiste. Sinon ton père il coupait tout ça.
Ouais.
Et alors comment ça a monté? Comment t'as fait plein de concerts? Les gens ont commencé à t'apprécier vraiment? T'as rencontré plein de gens?
C'était pas le terme concert. On allait dans les discothèques, les endroits comme ça, les maisons de jeunes, les MJC comme on disait à l'époque. Chanter, aller jouer. Moi j'allais jouer pour 10 balles. Enfin 10 balles, c'était 100 francs à l'époque, 50 francs, c'est des francs. Et mon seul plaisir, c'est bien sûr d'être sur scène. Là j'ai pris goût parce que je me dis, il y a que là que j'aime être. Et j'attendais que ça, être sur scène pour prendre le micro. Et là j'étais transformé. Quand on est gamin comme ça, à 13-14 ans, on est là-dedans.
Mais ça se passait comment dans la cour d'école, tes potes?
Mes potes ne savaient même pas que je chantais. Je faisais ça le week-end pour mon plaisir et point barre. Et je leur disais pas. Il y avait peut-être un ou deux, mes proches copains savaient que je chantais. Mais bon, sans plus, je n'étais pas intéressé par ça. On jouait encore aux billes. C'est pas qu'il n'y avait pas Internet. et après, bon, ben voilà, j'ai grandi l'école. J'ai continué la musique un peu. Le groupe s'est disloqué que j'avais à l'époque. Mais moi, j'ai continué à faire de la musique. Je voulais faire un conservatoire. Donc, je rentre au conservatoire d'Argenteuil pour étudier un peu le piano. Et j'ai changé mes cours avec mon beau-frère qui, lui, prenait des cours de saxophone. Donc, on s'est changé les cours. On faisait un peu comme ça. Et mon père n'était pas qu'on n'aimait pas du tout ça. Mais bon, après, je me suis retrouvé livré à moi-même quand ma mère est décédée. Et mon père est parti vivre à Argenteuil dans le Val d'Argenteuil. Et il nous a laissé la baraque à nous tout seuls. Donc, on faisait ce qu'on voulait dans cette maison.
Ah ouais, mais t'avais quel âge quand t'étais.
J'avais 14, 15 ans. Ouais.
16 ans par là. C'est devenu un MJC quoi.
Bah à 16 ans mon père il m'a émancipé, il m'a emmené au commissariat, il m'a dit toi tu fais trop le con, alors viens je t'emmène au commissariat. Et puis il m'a émancipé avant l'heure et le commissaire lui a dit pourquoi vous faites ça à votre enfant? Oh comme ça je suis tranquille, il m'envoie. S'il fait des conneries, au moins je serais pas responsable parce qu'à l'époque les parents ils étaient responsables de leurs enfants, c'est plus comme aujourd'hui.
C'est ça.
Et voilà, ça a démarré comme ça. Et puis à 17 ans, 18 ans, je finissais mes études et puis je trouvais pas de boulot. J'ai fait des études comptables. Et je trouvais pas de boulot parce que t'as pas d'expérience, parce que t'as 18 ans, qu'à l'époque il y avait le service militaire, donc on t'embauchait pas. Et donc je suis retrouvé un peu à la rue. Et heureusement que j'avais mes grands frères, dont mon frère Kenny d'ailleurs, à qui je reconnais et dédicace toujours tout, qui disait bon, j'allais dormir dans sa chambre de bonne à Paris, rue de Bordonnais, j'allais dormir chez mon frère Dixon, j'allais dormir chez ma soeur, tous mes frères et soeurs habitaient, avaient des petits studios, des trucs à Paris, donc je dormais dans la cuisine avec mon saxophone à côté, j'allais au conservatoire du 18e, enfin voilà, où après mon frère me disait toujours si tu sors avec une nana, sors avec une nana qui a une maison, hein, qui a un appart, sinon t'es mort. Donc j'ai fait un peu comme Jim Hendrix disait. Justement, c'est les femmes qui m'ont sauvé la vie, quoi. Parce que j'allais dormir, j'avais toujours une nana là pour vivre. Et à 19 ans, j'ai devancé mon service militaire parce que c'était à 20 ans. Et aux 3 jours, j'ai dit je veux partir maintenant. Elles me disent pourquoi? Parce que j'ai pas de maison. Au moins, l'armée, c'est obligatoire. Je me libérer de l'armée.
Logé.
Je suis nourri logé. Comme je trouve pas de travail, bah voilà. Donc voilà la première page de cette tendre jeunesse.
Pas simple, livré un peu à toi-même aux alentours de 14 ans. Et alors tu faisais beaucoup de conneries comme
justement au contraire, heureusement que j'avais un garde-fou, c'est tous mes grands frères.
Ouais.
À part, moi, j'en avais un qui faisait un peu de conneries, je le suivais des fois. Mais c'était assez bon enfant et toujours dans le rang quand même. J'avais un
grand frère. Tu savais où étaient les limites. Et...
Voilà, j'ai toujours eu des grands frères qui ont toujours été là pour dire tiens, attention, non, tu fais pas ça, ça et ça. J'ai perdu ma mère, j'avais l'âge de 11 ans, donc à la maison, on était assez proches les uns des autres.
Ouais.
Et avec une éducation quand même qu'on a eue bien sérieuse. Et grâce à cela, même si la police est venue me faire chier aussi à cette époque, alors que j'ai rien fait, enfin, j'ai des tas d'histoires, je vais écrire un bouquin, je pense très sérieusement, écrire vraiment mes mémoires.
Deux volumes.
Là, oui, je crois qu'il y a bien deux volumes. Et, parce que c'est une belle histoire, malgré avec des déceptions, plein de choses dans la vie qui font qu'on peut réussir dans la vie. Il faut vraiment.
Tout ça, ça t'a construit.
Mais exactement, exactement.
Il est bon. Hein.
Yeah, il est très bon. Et c'est pour ça, pour faire la relation, tu vois, animateur de radio, je suis, que j'ai choisi cette chanson qui s'appelle Pain.
Pain.
La peine,
ouais.
D'un groupe qui, justement, j'écoutais cette chanson quand j'avais le moral des fois archi à zéro. Et j'écoutais ce groupe, j'achetais non seulement pour les pochettes, mais pour les musiciens qu'ils étaient, parce que c'est vraiment des musiciens de blues.
Les pochettes sont fabuleuses, et puis derrière, ça joue, quoi.
Voilà, le groupe s'appelle Ohio Player. C'est vraiment le groupe, the groupe mythique d'Ohio. C'est comment dire. C'est par là qu'est parti aussi Bootsy et tous ces gens. Et cet album-là, comme les autres, parce que je les ai tous, cet album-là me touche plus personnellement, cette chanson Pain, parce que c'est vraiment un pur blues pour moi.
Ouais.
Plus, Il n'y a pas plus funk et blues que ce titre-là. Quand j'étais pas bien, quand j'étais gamin, j'étais pas bien, j'écoutais Pain. Et je me disais, putain, ça me remontait le moral. Mais une force au fond de moi, c'était ça.
Rassure-moi, aujourd'hui, tout va bien.
Tout va super bien, grâce à Dieu.
Il va très bien.
On écoute
Ouais.
Ouais, au plaisir.
T'as vu le prix un livre 99.
Tu vois.
Ça le fait quand même, chez Virgin Records.
Ah, tu vois. J'ai payé pas
cher. Le Radio Club, on est avec Sydney aujourd'hui et on joue Ohio Player. Et le titre, c'est
Pain.
On voit. Le Radio Club en direct de la Chambre de Bonne avec Sydney, c'est notre invité aujourd'hui. Et on est parti d'Argenteuil, famille de musiciens. Et là, tu nous racontais qu'avec ce morceau, bah, quand ça allait pas, qu'il y avait un peu de blues, qu'il y avait pas trop de gaieté dans ta vie, tu écoutais ce morceau et, ouais. Et ça te permettait de...
Bah, pas que ce morceau-là, mais vraiment celui-là, il est mythique, je comptais le passer. Il a été beaucoup samplé aussi dans l'histoire du hip-hop, ce titre-là. Et ça me mettait vraiment, ça te donne de, c'est comme si t'as pas ta mère pour venir te faire un câlin, pour te dire, tu sais, ça va aller mieux demain. Ben, moi, c'était un bon disque. Voilà. Et
Ohio Player, c'est le titre, c'était.
Ouais. Pain.
Pain. Bon. Très bien. Je crois que là, on a une vitesse de croisière qui est quand même...
Ça te plaît?
Bah, moi, ça me plaît.
Moi, j'avais un truc à demander à Sydney, je peux?
Bah, vas-y.
Yes, you can.
Ta définition du hip-hop, mais rapidement, comme ça. C'est un mélange de quoi? C'est indépendamment de sa venue, de la culture américaine?
Là, pour moi, je disais au début, quand je savais pas trop quoi dire, quand ça a émergé, je disais toujours, il y a eu le jazz, il y a eu le blues, il y a eu le rhythm and blues, il y a eu la soul.
La soul, ouais.
Il y a eu le, comment on dit ça, il y a eu le.
Le freestyle,
le rock and roll.
Le rock and roll, bien sûr.
Toutes les disciplines musicales. Et il y a eu le hip hop, il y a le hip hop, la culture hip hop. Comme on dit, il y a une culture dans le rock and roll, il y a une culture hip hop. Le hip hop, ça définit tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan musical.
Pas que le fait de rapper.
Pas le fait que de rapper, non, c'est tout le hip-hop, c'est tout le street art aussi.
C'est un ensemble
tout est
de choses.
C'est un ensemble
de choses.
La danse, tout. Voilà,
la philosophie, tout, quoi. Je veux dire.
Ça fait 35 ans que c'est en place et c'est pas un truc qui bougera, c'est une culture à part entière.
D'accord. Ben voilà, au moins je me coucherai moins bête ce soir.
Et alors comment tu t'intéresses, alors peut-être qu'on va faire un grand écart, mais entre la musique que tu joues, ce que tu peux vivre au jour le jour, le décès de ta maman, comment tu viens au hip-hop, comment tu viens, c'est par le rhythm and blues, c'est par tout ce dont cette musique s'inspire.
Ouais, tout arrive avec moi par la musique justement. Et la musique hip-hop est entrée en moi quand est venue cette période en 1982, cette période de musique de son électro. Et comme je m'intéressais à toutes sortes de musiques, soit de la salsa, n'importe quoi, j'ai dit j'entends cette musique électro et j'entends la musique d'Africa Bambaataa. J'achète le disque à Londres, je sais plus où, Planet Rock. Je me dis c'est un bon mélange. J'écoutais aussi, je dis tiens, certainement du Kraftwerk. Et Kraftwerk, c'est pareil, on est dans une même religion d'électro un peu spéciale. Je dis tiens, c'est intéressant. Donc je diffuse ça à la radio, à Radio 7, où j'étais à l'époque en 1982. Et je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a qu'un pas dans cette culture hip-hop et qui me l'a fait découvrir, c'est Africa Bambaataa directement. Parce qu'il était à Paris et il était chez une amie qui lui dit écoute, il entend sa musique à la radio en France. Il dit c'est pas possible, mon disque.
J'hallucine,
c'est qui met ce disque-là? La nana lui dit bah écoute, c'est un gars, il s'appelle Sydney, il a une émission à Radio France, sur Radio 7 et tout ça. Et elle m'appelle, elle appelle. Alors à cette époque-là, pareil, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Elle m'appelle, je la connais pas, la fille, elle me dit vous passez Africa Bambaataa, Planet Rock, est-ce que. Il est chez moi, est-ce qu'il peut venir? Ah, voilà, j'ai rigolé, j'ai dit écoutez les blagues, on en a tous les jours à la radio, merci, moi je suis François Mitterrand.
Voilà, c'est ça.
Elle rappelle, je raccroche, elle rappelle, elle dit non, c'est pas une blague, je suis vraiment avec Africa Bambaataa. Alors, comme on avait l'habitude du canular à la radio, comme il y en a souvent, je rigole une deuxième fois. Elle dit bon, bah, puisque vous rigolez, je vais venir avec lui. Je dis bah oui, venez avec Bambaataa, tant qu'à faire. Allez, amenez-le.
Tu donnes l'adresse, tout.
20, elle connaît, c'est à Radio France.
Je sais bien.
20 minutes après, elle arrive et Bambaataa arrive.
Non. Et là, t'as
et là j'hallucine. Et là, à partir de ce moment-là, le gars, je l'assois là, je lui dis vas-y, prends le micro. Et je suis comme ça. Et puis il me dit voilà, Sydney, là, tu es dans la culture hip-hop. Tout ce que tu as programmé là, c'est de la culture hip-hop. Et là, je suis plongé dedans, il n'est pas venu seul. Il est venu avec Mr. Freeze et Fable, des gars qui font partie de Rocksteady Crew. Et j'apprenais déjà à danser dans le couloir de l'émission dès le premier jour. Tout de suite, c'est arrivé. C'est boum, tu penses ça dans la figure, paf. Et cette fille qui me l'a emmené, c'est Laurence Huitou, avec qui j'ai fait l'émission, construit l'émission hip-hop.
Ah, belle histoire.
Je l'ai gardé.
Belle histoire.
Ouais. Et alors, puisqu'on parle de radio, comment ça a commencé Radio 7? Alors Radio 7, c'était en 1981, une radio qui est créée, vas-y, raconte-nous.
Créée par
Radio France.
Par Radio France, la petite sœur de France Inter, on l'appelait.
Ouais.
Et c'est sous François Mitterrand qui a décidé de libérer les radios et bien sûr d'avoir premièrement une radio libre d'État. Donc il s'est dit, débrouillez-vous, faites-moi une radio à de Radio jeune. France, libre d'état, une radio de jeunes, voilà. Radio 7, qui maintenant les
François locaux... Mitterrand arrive au pouvoir en mai de 1981, c'était le 10 ou le 11, je ne sais plus, et donc libère les ondes FM, parce qu'avant, elles n'étaient pas libres.
Ah, pas, pas libre du tout, c'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans la voiture, j'écoute la radio, j'entends un Georges Duc, je dis, Georges Duc à la radio, alors que toutes les radios sont rock'n'roll ou musique française, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et t'as un mec qui fait à la voix, ouais, vous êtes avec Smith et Wesson et tout. J'ai dit, qui c'est ces gars-là? Du tonnerre, oui.
Mais tu les as croisés parce que moi, nous, on les entendait, on était gamins.
Ouais. On écoutait
ça. Ouais. Et je te promets, du début à la fin, ces mecs-là, moi, si t'as une tape.
Non, j'ai pas
une sextape, hein, mais une tape. Je suis preneur.
Non, je les ai pas, je les ai connus, je crois, je les ai croisés une fois, mais je n'ai pas souvenir.
C'était
c'était des gars incroyables.
Des martiens, quoi.
Des martiens, et c'est ce qui s'est passé. Et j'écoutais ça, je dis, mais c'est pas vrai, hein, je suis resté à écouter. Donc j'écoutais Radio 7 sans savoir, j'écoutais Smith & Wesson sans savoir qu'un jour ou l'autre j'irais travailler dans ces locaux-là. Et moi, je travaillais dans une boîte qui s'appelait l'Emerald Club, rue des Petites Écuries. Et pas loin du New Morning. Mmh. Et moi, j'avais ma boîte spécialement funk. D'abord, j'avais fait une affiche à l'époque dans les années 70 qui s'appelait Le seul club anti-disco, parce qu'on était envahi par la disco. Mmh. Et moi, je mettais que du funk. Donc les gens qui venaient, ils venaient pas écouter machin, nana. Mmh. Voilà. Bref, c'est encore une autre histoire.
Et, non, mais on donc pourra c'est... en parler, parce que c'est... t'aimes pas le disco.
Ah, si. Il y a disco et disco, c'est comme il y a funk et funk. Et
alors
comme y a
explique-nous la différence entre disco et disco. Parlons-en.
Le bon disco et le mauvais disco.
Tu as la disco de Chicago, voilà. Real disco. Tu as la bonne disco que j'aime beaucoup de Giorgio Moroder, de Donna Summer. Et puis
tu as
les Village 54. People, quoi.
Ouais, aussi.
Tu as Alexandre et Alexandra Clou-François qui sont très bien organisés, ces trucs-là.
Populaire.
Mais. Voilà, il y a disco et disco, et après il y a disco funk, il y a bon, c'est comme dans tout, dans le hip-hop, il y a du bon rap et du très mauvais rap, voilà, il y a du commercial pourri, et dans la disco, t'avais de la disco pourri, parce que tout le monde faisait de la disco, parce que ça marche, et même James Brown a fait un album disco, quelle horreur, voilà, donc il y a de la bonne disco, de la mauvaise disco, on choisit son camp, mais il y a la vraie disco, celle de Chicago, qui s'est transmis après, parce qu'il y a la house, la meilleure house, elle est aussi de Chicago. Il y a de la bonne disco française aussi, parce que Cerrone, ce qu'il a fait, Supernatural, c'est aussi magnifique.
Il faut voir le parcours du mec, quoi.
C'est ça.
Personne ne veut signer son album à l'époque.
Ouais, voilà.
Les grandes majors, tout ça.
Ouais,
et le mec dit, ok, puisque vous voulez pas signer mon album, il avait un magasin de disques à Créteil Soleil ou je sais pas quoi. Et le mec dit, ok, vous voulez pas mon album, je vais le produire moi-même. Il est parti en Angleterre sur ses deniers et ça fait un carton.
Voilà.
Mais voilà, enfin c'est des histoires ahurissantes,
voilà. Et voilà, donc dans toute l'évolution musicale, tu rencontres tout cela dans la disco funk. Et moi, je travaillais dans cette boîte qui s'appelait l'Emerald Club, et j'avais des clients, des gens qui venaient écouter autre chose que ce qui se passait en boîte. Donc j'avais Clémentine Célarier comme cliente, j'avais, il vient de mourir là. Comment il s'appelle? Jacques Higelin.
Mmh. Ouais.
J'avais Nina Hagen. J'avais tous les musiciens américains de Stanley Clark ou d'Herbie Hancock, dès qu'ils arrivaient de chercher une boîte à Paris, on leur disait, vous allez à l'Emerald Club, vous allez voir ce gars-là. Je mettais du son, du reggae, du funk, du new, tout style de musique.
Et un jour, ils ont fait
une réunion à Radio 7. Ils ont dit, ouais, il y a une tranche horaire où il n'y a rien de 10h à minuit. Ils ont fait une réunion entre animateurs. Et ils ont demandé, vous connaissez pas Marie-France Billard? Elle dit, moi, je veux de la musique black. Faite par animé par un black.
Ouais.
Clémentine Salarié, elle a dit, mais j'en connais un.
Ouais.
Et lui, il connaît tout en musique, là. Faut aller le voir, Marie-France. Il est dans l'Emerald Club. C'est lui, va le chercher.
Donc c'est grâce à Célarier que tu vas à Radio 7.
C'est grâce à Clémentine Célarier que je file à Radio 7. Marie-France Brière est venue me chercher là-bas. Elle n'a pas pu rentrer dans la boîte. Elle n'a pas pu rentrer parce que c'était une boîte de black et d'arabe. Et la patronne, c'est une blonde, polonaise. Polonaise et russe, donc c'est la seule femme blanche. Et quand elle a vu la blanche arriver de Marie-France Brière, elle lui a dit non, vous rentrez pas là en bas,
c'est pas possible,
c'est ghetto. Marie-France Brière, faut jamais lui dire non, jamais, sinon elle se met en colère.
Ah ouais.
Elle dit, je paye mon entrée, non, vous rentrez pas, je rentrerai ici. Elle a réussi à rentrer, et quand elle m'a vu, elle a attendu que j'anime, elle a attendu, et elle m'a dit, vous voulez faire de la radio? J'ai dit non, j'ai dit, j'aime bien avoir mon public devant. Elle m'a dit, mais vous allez faire de la radio. Et comme Marie-France Brière, elle n'aime pas qu'on lui dise non et que moi j'insistais, je dis non, je ne vais pas faire de la radio, je suis tranquille, laissez-moi tranquille.
Et ben, elle me dit, oui, tu ne voyais pas tout ce que ça pouvait engendrer.
Pas du tout, je ne voyais rien du tout. Elle me dit, bon, elle était vraiment prise, déconcertée. Elle s'est dit, bon, elle sort sa carte de visite, elle me la donne, elle me dit, bah, écoutez, si vous changez d'avis, voilà ma carte. Et là, je vois le logo de Radio France. J'ai fait, waouh, vous travaillez là? Elle me dit, oui, oui, c'est là. Et je lui dis, je pourrais avoir accès à la plus grande discothèque d'Europe au milieu Radio France. Elle me dit, bah oui, bien sûr, vous pourrez rentrer partout. Elle dit, alors j'ai fait, oui, oui, tout de suite, je vais faire de la radio. Elle me dit, on m'avait bien dit que vous étiez cinglé, vous. C'est vous que j'ai besoin à la radio, tout de suite. Elle me dit, mais je sais pas en faire de la radio, je lui ai dit. Elle me dit, bah tu vas apprendre. Bah, allez, viens tout de suite.
En live.
Voilà.
Fabuleux. Ah, c'est trop fort. C'est fabuleux, c'est cette histoire.
Trop fort.
Ça, c'est quand même grandiose.
Ça a démarré comme ça. 1982. Voilà.
82.
Pas ni problème. J'arrive.
Voilà, ah ouais.
Et alors, ta première émission à Radio 7, c'est quand? C'est quel jour?
Alors ça, je me rappelle pas. Ça, ouais. J'ai cherché. J'ai des copains qui ont des mixtapes, des trucs comme ça. Ça a démarré, je sais, sur le chapeau de roue.
Il faisait froid, il faisait chaud, je sais plus.
Une quotidienne, j'ai décidé de faire une quotidienne très thématique. Le lundi jazz, le mardi machin, reggae, le mercredi ça. Toujours tranche musique noire. Juste avant l'émission de Clémentine, on faisait un passage d'antenne qui est venu mémorable parce qu'elle et moi, on est venus des meilleurs amis du monde. Et on avait, j'avais cette tranche horaire où je mettais, j'arrivais avec mes piles de disques, je savais pas ce que je mettais, on envoyait comme ça. C'était vraiment à peine préparé.
Freestyle total.
À peine préparé. Après, j'ai appris à me structurer, préparer l'émission pour être mieux parce qu'on avait un technicien, on n'avait pas le droit de toucher aux platines là-bas, c'est Radio France. Et on a démarré les émissions tout à fait comme ça.
Un peu comme aujourd'hui, t'es arrivé avec ton disque dur, tes vinyles.
Voilà.
Et j'ai dit, c'est quoi ton premier... Ouf, le premier disque...
Au feeling.
Je sais pas si c'est Jimi Hendrix, si c'est... non, je sais pas, James Brown...
On peut mettre les trois en même temps.
I'm funky. Oui. That's funky.
Et voilà, c'est ça. Mais nous, c'est notre style, on adore ça. Alors, on essaye avec notre expérience de faire un peu de la radio qui tient la route, mais c'est ça aussi que les gens ont envie d'écouter, je pense. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout est structuré, hyper structuré. Ouais. On sait très bien comment ça se passe. C'est, voilà, c'est cadré. Trois jours avant, on sait quel disque va passer à 17h32. Ouais. Ce qui est très bien parce qu'il faut s'organiser, il faut se professionnaliser.
C'est monsieur Selector qui parle.
Selector, man. Et aujourd'hui, on fait le Radio Club parce qu'on pense que c'est bien aussi d'avoir un petit côté imprévu, on sait pas trop. Et ben on aime ça et je pense que les gens qui nous écoutent aiment ça aussi. Le prochain disque qu'on va passer.
Ah, le prochain disque qu'on va passer. Alors là, c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'on dit que les blancs ont tout piqué chez la musique noire depuis les Beatles ont tout piqué à Ray Charles et tout ça et machin. Et il y a des blancs qui ont joué le funk comme mieux que des noirs.
Des Français
et,
même.
Il y a même des Français.
Là, c'est Juan apparemment. Rodzoff,
tous mes copains. Voilà. Malka Family, on va en
Malka
parler.
Malka Family, on en a parlé début d'année parce que.
Donne-moi.
Je l'ai amené en vinyle.
On n'a pas arrêté de le passer. Donc,
C'est mes potes. Je suis avec eux sur scène encore.
Et d'ailleurs,
bientôt.
Ah bah oui, ils passent le 3 juillet avec
George Clinton.
George Clinton.
Ouais, la partie de George Clinton.
Ouais. Et donc ça, il faut absolument qu'on y aille.
Ouais.
Et c'est où ça?
Au Casino de Paris.
Casino de Paris. Donc la Malka Family, George Clinton, Sydney, le 3 juillet.
The Affiche.
Voilà.
Casino de Paris.
Casino de Paris. Et ben on y sera.
Voilà.
Promis.
Donc pour promettre ça, justement, j'ai amené un Tower of Power, la tour du pouvoir, parce que c'est vraiment les mecs, moi qui suis musicien, où on entend le jazz, le funk, le groove.
Et c'est
des
blancs.
Du blanc pur, avec quand même toujours
une âme.
Il y a quand même un chanteur noir devant, des fois. Il y a aussi un organiste qui s'appelle
Foster. On le cherche un peu.
C'est qui le quebla
du groupe là.
Il fallait quand même un coup d'œil noir pour veiller sur la musique. Et Tower, c'est ça. Emilio Castillo et sa bande d'Italiens et tout ça.
Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le funk et tout ça? Ils ont fait plein de choses.
Énormissime, voilà. Donc, j'ai amené.
Et Jack Fred Petrus, producteur célèbre. Change et compagnie.
Voilà.
Dans ce groupe Change, si vous voyez sur des playlists Spotify ou Deezer ou ce que vous voulez, ou Apple Music, dans le groupe Change, il y avait un producteur, c'était un Italien, Jack Fred Petrus, d'ailleurs, qui a connu une fin de vie où il s'est fait trucider, je crois. Enfin, il y a eu un truc. Mais c'était des grands chanteurs, c'était Luther Vandross, Aretha Franklin, Jocelyn Brown, que des chanteurs de dingue comme ça. Je sais pas comment il avait les connexions, l'Italien là, mais le mec faisait la musique en Italie, il faisait venir les gros artistes américains, les gros stars black, et il faisait des albums avec. Et le groupe s'appelait Change.
Voilà. Vraiment mythique. Et là, on écoute Tower of Power, Give Me the Proof.
C'est parti. Le Radio Club, ça groove avec Sydney, Philippe Thorne. Try to imagine just how I feel.
Tower of Power.
Qu'est-ce que c'était bien ça.
Ouais, ouais, c'était.
On peut arrêter le vinyle là maintenant.
Ouais, tu peux. Yes, you can.
Allez. Yes, you can. Ils viennent d'où le Tower?
Auckland.
À Auckland.
Auckland, okay. Une partie de Auckland. Et après, il y a des gars qui viennent de partout. Mais
oui, oui, non, mais ces après, gars, c'est, ils ont l'air. Voilà.
C'est des gars de là-bas. C'est,
ils dorment quelque part, quoi. Ils se sont connus. Et...
Ouais, je pense. J'ai pas toute l'histoire de. Je me rappelle bien, j'étais bien fan de tous ces deux grands saxophonistes, Emilio Castillo et l'autre. Mmh. C'est l'un des seuls qui reste en tant qu'ancien membre du groupe, avec David Garibaldi qui est parti, qui est revenu, qui joue la batterie, qui est un batteur mondialement connu, l'un des meilleurs batteurs au monde, avec Steve Gadd. Ça, c'est une équipe de gars, c'est plus que du sensationnel. Moi qui suis bassiste en même temps saxophoniste, j'avais tout dans le même moule, quoi. On a, avec bassiste Rocco Presseia, le Doc, qu'on appelait le Doc, un grand bonhomme avec son saxophone bariton, qui jouait le bariton. On avait vraiment le funk à l'état pur. Même James Brown respectait énormément Tower of Power. Il faut se procurer tous leurs disques si vous ne connaissez pas. Et maintenant, il y a des adeptes de Tower of Power. Je viens de découvrir un groupe qui s'appelle Santa Fe and the Fat Hounds, Fat City Hounds, qui font comme des Tower, un peu avec leur ambiance et tout. Encore un groupe américain, mais entreprise lourde avec des cuits bien cuivrés.
Alors
bien
sauce, 40 sur scène.
Ouais, voilà, ils sont
à
40
sauce, quoi.
Ouais, vraiment, c'est du lourd. Et justement, je voulais rester dans cette ambiance pour vous faire découvrir le premier groupe vraiment devenu célèbre avec un gros tube de funk que vous connaissez vous aussi, le Average White Band, parce que ce sont des groupes qui vraiment ont amené le funk chez les blancs plus, parce que des gens disent, ah bon, nous les blancs, on peut jouer vraiment du funk pur et lourd. C'est ces gars-là, quoi. C'est Average White Band, c'est Tower of Power.
Donc ça veut dire que si on n'est pas black, on peut groover aussi.
Voilà, c'est pour ça que quand j'ai fait l'émission de télé, j'avais un danseur blanc, parce qu'il me disait, il faut que tu mettes un danseur blanc, sinon les blancs vont se dire, bah, c'est normal, les noirs vous dansez bien, alors qu'il y a des blancs qui dansent bien.
Encore les stéréotypes et tout ça, les
ouais,
clichés.
Le stéréotype, ouais. Voilà. Les clichés à la con.
Les quotas, merde.
Voilà. Et quand Average White Band, quand ce titre il est sorti, on s'est dit, putain, c'est qui les mecs qui me demandaient, c'est fait voir la pochette. Et sur la pochette, justement, on voit pas trop les musiciens, mais ils disent, ah, c'est des blancs qui jouent comme ça, putain, mais c'est terrible, quoi. Même James Brown, il est sur le cul, quoi. Pick up the piece.
Avec des cuivres.
C'est la famille Macintosh, les Macintosh.
Radio Club, ça groove. Changez rien. Souriez, il fait beau. Ben voilà, yes. L'émission Le Radio Club, c'est en direct. On était en train de caler le vinyle et puis bah voilà.
Voilà, comme il y avait un double.
Il y avait
deux LP quoi.
Ah oui, d'accord.
Donc
ils se sont trompés de vinyle.
Oui,
mais... Tu veux le caler en direct, c'est ça? Vas-y.
Mais ouais,
non mais vas-y. Ça on est avec Sydney, les amis.
Ça fait quoi? Ça fait quoi? Voilà. Ça fait ça.
Ouais, mais ce morceau est vachement puissant, donc je me dis peut-être que c'est trop fort pour eux.
Pour un dimanche après-midi.
Oui, on peut le faire.
Tu veux mettre un slow?
Tu fais ce que tu veux.
Tu veux mettre un slow?
Je mets un poème.
Tu mets un poème.
Voilà, il est calé. Voilà.
Alors, c'est quel groupe ?
Quel talent.
Alors, c'est pour terminer mes tribus blancs que j'aime bien. C'est Chicago, qui s'appelait à l'époque Chicago Transit Authority. Alors, ça aussi, c'est une partie de ma vie, de ma life, tu vois. Parce que quand ces gars sont arrivés, j'ai pris possession à me dire voilà, il y a un autre élargissement musical entre le jazz, le funk et l'ouverture du rock. C'est un groupe, ce groupe mythique, Chicago.
Le groupe Chicago qui a fait
If You Leave Me Now.
Ouais, ça, c'était à l'époque, voilà, ils ont fait sur un peu du bassiste. Mais avant, c'était pour moi un groupe aussi gros en construction musicale, en arrangement musical, ce mélange de rock, de funk. Ce guitariste Terry Kate qui est décédé, il a joué à la roulette russe, il s'est mis une balle dans la tête.
Et, ils étaient attaqués quand même.
Dangereux, ouais. Et c'est Terry Kate.
C'est quoi, c'est l'alcool, c'est la drogue
là, tout ce que tu veux, voilà. Les gars, c'est des gars. Bon, tu sais, pour faire une bonne musique, il faut des mecs qui sont un peu fous, quoi. C'était le bras prolongé de Jimi Hendrix, c'est Terry Kate. Tu vois, la guitare pour moi, bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Comment il s'appelait, Franz Zappa, tous ces gens-là sont des guitaristes notoires. Bon, il y en a plein d'autres.
Ils sont pas humains, quoi.
Il
y a quelque chose, une dimension supplémentaire.
Voilà, donc j'écoutais du Zappa, j'écoutais plein de choses comme ça. Je mets du Pink Floyd aussi, plein de choses. Mais la construction de Chicago, c'est bien parce qu'il y avait tout le jazz des cuivres dedans, tout le rock de la guitare de Terry Kate, et puis des musiciens hors normes. Ouais. Et Chicago, ce premier album-là, c'est tout. Quand je l'entends, c'est toute ma vie. Donc j'ai tous les albums live. Ils ont fait dernièrement un concert avec un concert double, donc Chicago et Earth, Wind & Fire ensemble. Et là, c'est une tuerie. Vous allez voir, chercher les vidéos sur internet.
On va y aller.
C'est une tuerie.
C'est pas l'équipe Earth, Wind & Fire de l'époque
avec Maurice White et Philippe Bellet.
Ah non, voilà.
Mais quand même, ça groove.
Avec Chicago, voilà. Donc quand c'est du lourd comme ça, vraiment du lourd. Et comme tu as un invité du lourd, alors j'ai amené du lourd.
D'accord. Alors moi, j'aimerais qu'on retour à la réalité. J'aimerais quand même qu'on remercie tous les gens qui sont en train de nous envoyer des petits messages, des likes sur les vidéos et tout ça. Il y a Eric Kaufmann, notre poteau DJ, qui est venu dans le Radio Club.
Salut Eric.
Voilà. Salut Eric.
Il y a François, il y a Jean-François, il y a Lionel le Zincou.
Et t'as des likes ou t'as des cœurs aussi? Parce que
je peux pas te dire.
Il y a de tout.
Il y a Pierre, il y a Christophe de Nice, il y a Jean-Michel Gabriel, il y a Jim. Ouais, c'est ça, Jean-Michel Gabriel. Il y a Denis. Il y a Pierrot, il y a le Zuf, il y a Bertrand, il y a Sam Chouéka
qui nous a
Sam Chouéka dont on parlait tout à l'heure, Groucho et Chico de France Télévisions.
On embrasse tout le monde.
Ouais. Et on nous écoute même du Québec pour vous dire oui.
Yo.
C'est Thierry. Ben voilà. Thierry qui nous écoute du Québec avec Marie-Hélène, ils sont en train de prendre leur café et ils écoutent le Radio Club. Ils se lèvent en fait, c'est ça, tranquille, pépère.
C'est cool quand même, non?
Merci à vous tous de nous écouter, vraiment, merci. Au moins on sait pour qui on fait la radio aujourd'hui.
C'est ça.
Combien de cafés? 2, 3, on y va? Allez. On commande.
Ok.
Et donc retour à nos moutons, mais il n'y a pas de mais.
Chicago, Transit Authority, on met le poème, accrochez-vous bien, on ne pourra pas le mettre en entier, c'est 8 minutes 57 de... De
pas,
tuerie, hein.
Si c'est 8 minutes, on ne coupe pas. Il n'y a pas
de directeur d'antenne.
Oh là
c'est
là
cool, hein.
Là.
If you leave me now.
Ah, c'est pas celle-là, tu vas voir.
Le Radio Club.
Ça va craquer un peu, c'est du vinyle.
C'est Sister Sledge, Bernard Edwards.
C'est ça. Bien avant. Terry Kate à la guitare.
Et les claps. Il y a les claps qui arrivent.
Même pas.
Il va s'en servir comme ça, lui.
Test, test.
Chicago, le Radio Club.
Chicago Transit Authority, leur premier album, top, toute ma vie.
De chez
toute
top.
La musique, voilà. Vous avez entendu les guitares à Hendrix, Terry Kate, et puis les cuivres orchestrés de main de maître par tous ces.
Ils ont été à la base de toute la musique californienne, de tous ces groupes, Doobies, voilà. Fleetwood.
Les Doobie Brothers, il y avait déjà tout
If
ça à l'époque.
You lead me now.
Il recommence.
Non, mais parfois, il bloque sur des trucs.
Ouais, ouais, ça arrive. Hein,
et ça va durer toute l'émission. Faut pas que tu t'inquiètes.
Ah non. D'accord, oui.
Les auditeurs, ils ont l'habitude, donc ça va. Mmh. Mais toi, faut pas que tu t'inquiètes.
Non, d'accord. T'inquiète pas.
Okay, bah, tout à l'heure, c'était Annie Cordy, alors c'est ça, j'ai compris. Hein.
Bah, on a la culture musicale qu'on mérite, hein.
N'est-ce pas? Bon, pas grave. On va garder quand même. On va garder.
On le garde.
C'est
le garde
lui qui m'a invité, alors.
Je suis en CDD, Sylvain.
Je sais pas comment.
Je suis en CDD.
On te garde.
Et on parlait de Radio 7 tout à l'heure. Ça a duré combien de temps, Radio 7?
Ça a duré 1982, 84. J'étais obligé de m'arrêter parce que j'avais l'émission de télé. Donc Marie-France Brière, on lui a proposé de la direction des variétés à TF1 et on lui a demandé de créer des émissions. Elle a dit la première émission que je vais créer, c'est ça se passe dans les couloirs de Radio France. C'est bien, c'est Sydney. Il faut faire une émission là-dessus. Il apprend les jeunes à tourner sur le dos,
mais
sur la tête.
Comment ils ont fait pour accepter un truc pareil?
Bah, ils n'ont pas accepté. Mais Marie-France Brière est une femme qui a horreur qu'on lui dise non.
Encore voilà. Une fois.
Encore une fois. Donc elle s'est mise en colère.
Elle a dit si vous me voulez, c'est ça ou rien.
Voilà, t'as répondu. Et ils ont dit bah écoutez, on n'a pas de place horaire. Elle a dit vous débrouillez. Alors, ils ont trouvé un petit endroit où il n'y avait rien pendant 12 minutes le dimanche avant Starkey Hutch, 14 minutes. Eh bien, on va vous mettre là. Parce que là, il n'y a rien.
T'as commencé avec un créneau de 12 minutes.
Voilà, 14 minutes.
D'accord.
Parce que, et en face, ils savaient que, de toute façon, ils ne pouvaient rien faire. Il y avait Jacques Martin en face sur Antenne 2.
Ouais.
Alors, ils se sont dit, bon, on va les mettre là avec leur danse. Vas-y. Parce qu'il faut savoir que la télévision française et la culture, c'est deux choses différentes. Hein.
Ouais,
tu le vois bien au prime time. Hein, voilà, t'as que des émissions où c'est blablabla et un tas de machins. Et bon, il n'y a rien de pas pour moi, rien de cultivé.
C'est creux.
Ouais, c'est rien de cultivant, quoi, voilà.
Mais comment ils ont fait pour accepter, quoi? Je veux dire, c'est
le hip-hop, on connaissait pas en France, il y avait pas de groupe, il y avait, enfin, peu, enfin, même.
Tu sais, sur Terre, Dieu a ses disciples, il y avait Marie-France Brière.
Ah ouais? Donc, tu crois beaucoup,
disciple
ça?
Disciple de Dieu. Mmh. Oui, je crois en Dieu, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion solennelle, j'ai fait tout ça, je suis né à Argenteuil, voilà, j'ai arrêté de croire en Dieu quand ma mère est morte d'un cancer, mais, on a tous besoin de croire en quelque chose, mais je fais chier personne avec ça.
Non, mais quand je dis tu crois en ça, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a atterri sur les dirigeants de TF1 à cette époque et qui a dit
ouais.
Bon, why not?
On a eu une chance aussi d'avoir Hervé Bourges qui avait été longtemps le patron sur RFI, les radios africaines et tout ça. Donc,
ouais, donc il avait l'ouverture d'esprit.
Voilà, toute la world music est arrivée grâce à ces gens-là. On a découvert Touré Kounda, Mori Kanté à cette époque. Voilà, c'est grâce.
Moins inquiet que d'autres, quoi.
Voilà, moins inquiet. Oh, bah, c'est une belle phrase, ça, tu vois. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, il sort à ça de temps en temps, Philippe Thorne.
Il
va nous sortir un truc et là, on va tous se prosterner devant lui.
Illuminer
l'émission.
C'est le Radio Club.
Mais c'est ça, la radio. Et ce qu'on avait à cette époque, c'était cette espèce de. Je crois en ça, une espèce de providence. À un moment, il y a un truc, il faut le choper, tu vois. Il a chippé, je l'ai chopé. Et moi, je suis arrivé
ça,
un peu par
aussi.
La providence.
C'est beau, magnifique, ça, c'est beau aussi. Ouais.
Et la providence, c'est qu'on avait un président Hervé Bourges qui est passé à la présidence de voilà. Et Marie-France Brière, paf. Et puis, moi, j'étais là au bon moment. Une bonne chose, voilà. Et paf.
Et alors, du jour au lendemain, tu passes de l'anonymat à.
Ouais, alors oui, je pouvais plus sortir de chez moi. Du jour au lendemain. Première émission, paf.
T'habitais toujours dans le 95?
À Saint-Denis, j'habitais à Saint-Denis. 93, à Saint-Denis, place de la petite place Victor Hugo en face de la basilique. Mmh. Et là, j'ai voulu descendre de chez moi, j'ouvre la porte, je referme parce que j'ai trop de monde dehors. Les gens savaient tous que j'habitais là.
Ah oh non.
Impossible de sortir. Je suis pas sorti de chez moi, je suis remonté, j'avais les boules, j'ai dit comment je fais.
Tu nous disais tout à l'heure, c'est à cette époque que tu rencontres Joey Starr, 11 ans.
Bah oui, même avant, parce que il m'enquiquinait pour que je l'emmène à la radio, et je voulais pas l'emmener. C'est un petit gars, il traînait un peu comme ça, à droite et à gauche, partout avec ses potes, des fois tout seul. Et il me disait, tu verras, un jour, je vais devenir une star. Et il me disait, je peux venir avec toi à la radio, je pouvais pas l'emmener, parce que pour des questions de responsabilité d'emmener un gosse mineur dans la voiture. Et, mais il avait, il était là, il était vraiment, je peux pas dire là dans la rue, mais il errait dans le coin, il habitait à Saint-Denis aussi, et il venait me prendre mes parties de
flipper, quand je gagnais au flipper en rentrant à 6h du matin de boîte de nuit avec mes disques, je prenais un petit café en bas et Joestar était déjà là. Il me dit, un jour je viendrai une star, tu vas voir, comme toi.
Ouais, il avait vraiment envie de faire quelque chose, quoi.
C'est un type, ouais, de toute façon il aurait fait quelque chose, il est très brillant, il est d'une intelligence hors clair. Du commun, c'est on ne croit pas. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment quelqu'un de très bien.
C'est un vrai artiste, quoi.
C'est un vrai artiste, en plus c'est un mec, il a l'air comme ça, assez arrogant et tout, mais c'est comme on dit, c'est un dur au cœur tendre. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
On est d'accord.
Voilà. On est bien d'accord. Artistiquement, on est juste ébahi par ce qu'ils font les deux. Là, NTM a été un groupe de rap. C'est un des plus grands groupes de rap français, voire
là. Franchement, c'est un peu ça.
Ils sont dans le patrimoine.
Yeah.
Ding, ding, ding. Vous êtes sur le Radio Club. C'est bien. Contrôle.
Ouais, alors ça va enchanter votre dimanche.
Ouh, c'est du lourd.
Hip-hop. Sydney, le Radio Club, c'est dimanche. Et on adore ça, avec Philippe Thorn
et Arthur Legg.
Sydney is in the house, get down on the beat, y'all.
c'est bon, c'est bon, ça accélère un peu le tempo, yo. Get down, my man, out here, yeah. Sydney addict, addict control, I like this in direct, in le radio club. C'est comme si que tu étais ce soir, get down.
Yeah, yeah, Sydney, le radio club. Here we go, here we go, here we go now.
The bass, the cognac on your face, the king of the beat, the gonna rock on this place. Pump King is the name, and who's a damn barrel loader. Sydney, that's my name, my rapper's the MD4. Radio Club is in the stereo, good to go. FF or FM, FM. I like you like, si tu aimes ça. Sydney, in the mix, contrôle ça pour toi. Ça, ça dans le sens, ça j'y consens. C'est le seul sens que je donne à mon rythme et pour le funk. F-U-N-K, the real situation, and I don't care. People in the house, I'm Arthur Legg. Is in a crew like this, if believe in the Philip. Philip and the Philip is in the house. Introduce the real wave, Mr. Thorn. Kano down. Ha! Yeah! Radio Club. I say what now? Rap, moyen d'expression. L'homme parlera le rap depuis sa création. Rap, de quoi est-il question? Cracher du verbe original sur toutes les nations. Africains, américains, algériens et marocains, martiniquais, guadeloupéens, improvinciaux et parisiens. 15, 20 et anciens. Noir, blanc, jaune, rouge, vert. C'est pour vous que je fais des vers à l'endroit, à l'envers. Des formules qui stimulent, pleines de caractères dans l'univers d'une nation qui trime, rime, tape, frappe, casse. C'est la nation rap du RRRM, de la radio club, de leur radio club et du radio club. Comme tu le sens, comme tu ressens, moi j'y consens ça dans le sang. Sydney is in the house, S-I-D-N-E-Y. Introducing the rap and the direct. What we can do, there's a proof and a true young. Juste te dis ça en rap en français, en anglais, en chinois, c'est comme tu le sens, jamais je te noie, je reste. Et pourtant jamais je ne vise, ma seule devise, c'est de te mettre du funk dans ta tête. Yeah, oh. Yeah.
Sydney, oh.
Radio
donne
Club
moi. Sydney, oh. Donne-moi, 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 donne-moi.
Les cœurs, les cœurs. C'est what now?
Donne-moi, donne-moi.
Sydney, oh.
La jonglerie mortelle de mes mots. J'ai l'entonnoir sur ma tournée dans mon mémo. De mon encre indélébile qui coule de mon stylo. Je te prescris cette potion qui guérira tous tes maux. Car je suis venu pour t'apporter une manière de passer ta rage de vivre en t'exprimant. De dénoncer au micro tous les boniments. Et ça, sans même des médicaments. Moi jamais je ne mens, je raconte ce que je sais. Pendant que j'improvise, jamais je te vise. Je te l'ai déjà dit, aujourd'hui c'est dimanche. Une autre paire de manches, le Radio Club.
Ciné, oh.
Donne-moi,
yeah. Donne-moi.
Oui les cœurs.
Donne-moi, donne-moi.
Oh, Ciné, oh.
Répète encore, yeah.
Donne-moi, donne-moi.
Ciné, oh.
Radio Club.
Donne-moi, donne-moi.
Ciné, oh. Happening, yeah, do it, right now, take that pop the funky,
funky,
funky groove, yeah,
funky groove,
give it to
donne
me,
moi. Donne-moi, donne-moi encore,
ooh,
Sydney, oh, donne-moi,
Sydney,
donne-moi,
oh, 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 oh,
donne-moi,
oh, oh, Sydney, oh, give it to me,
donne-moi, oh, donne-moi,
Sydney, oh.
You're the one, you're the one,
you're the one, you're the one.
We are the one on the radio right now.
Done the one.
Hey, hey, I'm the one, yeah.
You the one,
we are the one.
Woo. Yeah.
Oh,
all right.
Give it to me.
Sydney, oh,
hey,
Sydney,
da 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 da.
give it to me, give it to me, give it to me, Lord.
Ciné-ho! Ciné-ho! Donne-moi! Donne-moi! Ciné-ho!
We gotta cut it up now!
Ciné-ho! Ciné-ho!
Ciné-ho! We can stop it!
Ciné-ho! Donne-moi!
Ciné-ho! That's a good song for me here!
Donne-moi! 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 Donne-moi!
Ciné-ho!
Thank you.
theradioclub.com